écouter l'émission de Vous à nous en direct, réalisée par les stagiaires de l'espace ressources et insertion de l'Université populaire du Ventoux.
L'UP Ventoux est un organisme d'accompagnement à l'emploi, à la formation et à l'éducation et à l'environnement.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous à nous avec les stagiaires de l'UP Ventoux comme vous venez de l'entendre sur la petite promotion d'introduction de cette émission. Et pour la réaliser aujourd'hui, je suis accompagné de Simonetta. Bonjour Simonetta.
Bonjour.
Ravi de te retrouver, tu es une fidèle de l'émission Simonetta.
Oui.
Ça me fait toujours plaisir que tu sois dans l'émission de Vous à nous. Bien sûr, ma fidèle animatrice Josie. Salut Josie, comment vas-tu?
Oui, bonjour à tout le monde, bonne journée avec le soleil.
Avec le soleil, beau temps et également deux fidèles, Laurent. Bonjour Laurent et Benjamin.
Bonjour Alain, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Voilà les fidèles de l'émission de Vous à nous, nous sommes ensemble pendant une heure, donc on a eu une petite pause qui était la pause pour les vacances, vacances scolaires, donc tout le monde était un petit peu en pause, et on se retrouve donc pour une heure, on va vous donner un petit peu des informations, bon, on fera un petit point météo, c'est Laurent qui va nous faire le petit point météo, Benjamin nous parlera, il a souhaité parler du changement climatique, un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, le changement climatique, et Dieu sait s'il est important, maintenant c'est vraiment difficile de cacher la réalité et de continuer à dire que le réchauffement climatique, n'est-ce pas Benjamin, n'existe pas. On a un président d'un très très grand pays hein, qui a tendance, lui, continuer à dire que le réchauffement climatique, c'est un leurre, que ça n'existe pas. Ouais, malheureusement. Mais bon, on en parlera, on verra que malheureusement, il est bien bien réel et nous, on peut le mesurer dans notre vie de tous les jours. Ensuite, Laurent nous parlera de l'huile de palme qu'on utilise beaucoup, hein, Laurent, au niveau alimentaire, mais pas que, on l'utilise aussi dans les carburants et ça fait beaucoup de dégâts parce que là où c'est planté, ben, où on plante les palmes, ben ça, malheureusement, ça crée beaucoup d'autres problèmes. Josie, tu nous parleras du parc régional. Qu'est-ce qu'un parc régional? Voilà, puisque notre Ventoux est en cours de classement, c'est en cours petit à petit ça avance pour qu'il devienne un des nombreux parcs régionaux qui soit, voilà, je ne sais plus combien il y en a mais tu nous le diras, il y a un certain nombre. Ensuite bien sûr on aura Simonetta qui nous fera quelques annonces, on a Benjamin qui nous parlera des fruits et légumes sous serre, l'inconvénient du bio sous serre qui n'est pas réellement du bio s'il est sous serre chauffé, je précise bien les serres chauffées, et Laurent nous parlera des déchets plastiques, justement le problème des déchets plastiques, ce que l'on fait maintenant de nos déchets. Donc une émission, vous pouvez le constater, qui est très axée sur l'environnement, sur le climat, voilà, on a souhaité que ce soit une émission qui soit très très énormément basée sur tout ce qui est environnemental et Dieu sait que ça a une grande grande importance, l'environnement, et on en parle de plus en plus. Alors pour commencer cette émission, on va se faire le petit point météo et je crois que c'est toi Laurent qui va nous donner de bonnes nouvelles pour demain puisque demain c'est le 1er mai, c'est férié.
Oui, c'est plutôt une très belle journée demain. L'horizon sera dégagé toute la journée, les températures minimales seront de 6 degrés, température maximale 24. Le soleil se lèvera à 6h31 et se couchera à 20h42. Il y aura un très léger vent à 6 km/h avec des rafales à 35 km/h.
Bonne nouvelle.
Voilà, une très belle journée, il me semble.
Ben, bonne nouvelle que le vent voilà, baisse, parce que c'est vrai que ce vent ben, a rendu les températures un petit peu. Il fait un peu plus frais que d'habitude. On était habitué à de la douceur.
Cet après-midi, il est prévu à 70 encore le vent. Hein.
Ouais,
ça va se calmer dans la soirée.
Il y a encore du vent. Bon, on a eu un petit peu de pluie. Malheureusement, elles sont peu nombreuses, ces pluies. On souhaiterait en avoir beaucoup plus. Et je crois qu'il y a des départements de France, comme la Bretagne, qui ne sont pas habitués à une aussi grande sécheresse. Et c'est vraiment une catastrophe. Il y a vraiment très très peu de pluie et cet été on risque de le payer, beaucoup de restrictions d'eau qui malheureusement voilà, font à l'horizon on voit une super sécheresse et manque de pluie. Le mois d'avril logiquement c'est un mois où il pleut beaucoup mais c'est pas le cas. Benjamin, au niveau de la pluie, qu'est-ce que tu en penses toi de cette sécheresse? Ben, ça en parlera sur le climat tout à l'heure, tu nous diras que ça a une incidence justement.
Franchement,
s'il y a la sécheresse, c'est au changement climatique, le réchauffement, je suppose que tout est lié, en fin de compte, bien sûr.
Hein. Peut-être pas, hein, peut-être pas. On voit depuis, même avant le réchauffement climatique, il y a toujours eu des périodes de sécheresse.
De sécheresse, c'est vrai qu'il y a eu des périodes, des grosses périodes de sécheresse dans le... Ben, on en reparlera un
Donc,
petit peu.
Je pense pas qu'il faut tout mettre forcément sur le réchauffement climatique.
Quoi. D'accord, ben on verra un petit peu ce sujet juste après. On se fait la première pause musicale, mais bonjour également à Willy, que j'ai totalement oublié, notre technicien qui travaille dans l'ombre.
Bonjour
mais,
à tous.
Mais Dieu sait comme il est important le technicien, sinon il n'y aurait pas d'émission. Salut Willy. Et qu'est-ce que...
Non mais c'est pas grave, les boutons sont là.
Voilà, ben Simonetta va nous annoncer, merci Willy, va nous annoncer le premier morceau que nous allons écouter et que notre technicien va envoyer sur les platines.
Oui, alors on commence avec Quentin Mossiman. Oh,
croisé, on vient de débarquer. 35 jours de galère et de nuit pour se vider. J'avance sur ce qui est humide, la sueur brûle comme l'acide. L'enfer va commencer, bière chaude et narguilé, chez Mario tout oublié. Machine dans ma tête, machine sous des tempêtes. Mais cette machine dans ma tête, leitmotiv une nuit secrète. T'as tout mon âme à mon dégoût. Guette l'entrée, l'alcool est mon allié. L'amour il faut payer. Ivre et grâce, elle m'entraîne vers angoisse et la rengaine. Mais cette machine dans ma tête, machine sourde et tempête. Mais cette machine dans ma tête, laisse mon tube nuit secrète. T'as tout mon âme à mon dégoût. T'as tout, t'as tout. Mon espoir s'est échoué. J'en ai marre de ramer. La détresse a pollué l'océan de mes pensées.
Cette émission vous est présentée par les stagiaires de l'UP Ventoux.
Et vous venez d'écouter Quentin Mosiman. Alors c'est la Star Academy, tu nous dis, Josie, qu'il avait gagné ce Quentin Mosiman.
Oui, effectivement. Voilà, il était plus en quelle année,
par contre. Il est franco-suisse. C'est un disque jockey, producteur, chanteur, animateur de télévision, dont on n'entend plus vraiment parler maintenant. Mais comme nous disait Willy, notre technicien, il composerait. Donc c'est quelqu'un qui composerait pour les autres artistes, parce que c'est vrai qu'il avait repris Cargo de nuit, et puis on l'a pas tellement entendu. Quelques autres titres, mais après c'est quelqu'un qui est tombé en désuétude. Mais il doit travailler dans l'ombre. Voilà, ça fait partie
des compositeurs. C'est que ce n'est pas tous les lauréats de la Starac qui ont vraiment pu continuer longtemps. Après.
Non, effectivement. Bon, il y en a sorti quelques-uns
qu'on connaît bien,
mais d'autres qui ont plus ou moins...
Ils n'ont pas tous aussi bien réussi.
Le genre, c'est de la house dance pop, normalement. Il est depuis 2007, voilà, qu'il est actif, logiquement, ce Quentin Mosiman. Voilà. On va continuer sur sur ce que l'on doit réaliser dans cette émission, sur l'activité, l'ensemble du déroulé de l'émission. On va parler changement climatique. Et c'est Benjamin qui va nous parler de ce changement climatique. Le micro est à toi, Benjamin.
Alors, l'une des conséquences les plus édifiantes du réchauffement climatique est la fonte des glaciers. Or, une nouvelle étude donne une estimation vertigineuse de la fonte de la glace en près de 60 ans, tandis que les glaciers alpins auront sans doute complètement disparu à la fin du siècle. Lorsque la température augmente continuellement dans des territoires occupés par des glaciers, ils finissent par fondre, reculer et même disparaître. Une preuve irréfutable du réchauffement climatique en cours n'en déplaise à ceux de plus en plus rares qui le réfutent. Une équipe internationale menée par l'université de Zurich en Suisse a combiné des observations glaciologues de terrain classique avec un grand nombre de données récoltées par des satellites de différentes missions afin de calculer minutieusement la quantité de glace perdue ou gagnée par 19 régions glaciaires différentes du monde entier. Les conclusions sont édifiantes. Les changements d'épaisseur observés sur 19 000 glaciers dans le monde signifient la perte de 9 625 milliards de tonnes de glace entre 1961 et 2016, contribuant de 2,7 cm à la montée du niveau des océans à l'échelle planétaire. Les pertes régionales les plus conséquentes concernent l'Alaska, les glaciers situés autour de la calotte glaciaire du Groenland et les glaciers des Andes méridionales. Les glaciers de l'Arctique canadien et russe ont également perdu des quantités significatives de glace. Michael Zemp, chef de la recherche, explique « Alors que nous pouvons aujourd'hui fournir des informations claires sur la quantité de glace perdue dans chaque région glaciaire, il est surtout important de noter que le taux de perte a augmenté de manière significative ces 30 dernières années. Nous perdons en ce moment 335 milliards de tonnes de glace par an, ce qui correspond à une montée du niveau des mers de 1 mm par an également. » Les glaciers des Alpes auront disparu à la fin du siècle.
Tu nous as annoncé quelques chiffres qui font froid dans le dos. Hein. Nous perdons en ce moment 335 milliards de tonnes de glace par an. C'est énorme. Franchement, je ne sais pas comment on peut se représenter ce que ça peut faire, 335 milliards de tonnes de glace.
Mais c'est énorme parce que moi, je sais que ça me fait peine quand tu vois cet ours polaire là, qui n'a plus que la peau sur les os, qui n'a plus rien à manger. On se dit, mais il n'est pas le seul, quoi. Il y en a plein qui vont souffrir
mais,
de ça aussi.
Mais même beaucoup plus près que de chez nous, on parle des ours, mais il y a Chamonix, où il y a des photos qui ont été prises à différentes périodes, par décennies. On voit vraiment la mer de glace qui a reculé plusieurs centaines de mètres. C'est énorme. Hein. Je
ne sais pas si vous avez l'occasion de l'avoir. Ça fait de l'eau qui va envahir.
Qui te retourne à la mer et qui fait monter le niveau des eaux de la mer.
Ou
effectivement,
certaines villes aussi, comme à Chamonix, par exemple.
Oui, tout à fait. Oui. Et les conclusions sont édifiantes. Tu nous le disais tout à l'heure, Benjamin, le changement d'épaisseur observé sur 19 000 glaciers, ce qui est quand même quelque chose d'énorme. Il a une sacrée étude, 19 000 glaciers, c'est pas rien. 9 milliards 625 milliards de tonnes, j'y parle en gigatonnes de glace entre 61 et 2016, contribuant à 2,7 cm à la montée du niveau des océans à l'échelle planétaire. Et 3 cm, on ne se rend pas compte, on a l'impression que 3 cm c'est rien, mais la montée des eaux de 3 cm, il y a des villes qui vont garantir qu'ils vont se retrouver sous les eaux, Benjamin.
Et pour les derniers climato-sceptiques et pour ceux qui en veulent en savoir un peu plus, moi je recommande un film que j'ai vu qui était excellent, oui. Ça s'appelle La glace et le ciel. Donc c'est un film de Luc Jacquet qui rend hommage au chercheur Claude Lorius. C'est une personne qui a plus de 80 ans.
Un glaciologue, aujourd'hui, on appelle ça glaciologue, oui, tout à fait.
Et qui a passé sa vie en fait à étudier les carottes glaciaires. Donc il y a des bubules en fait qui sont emprisonnées dans la glace et il peut voir exactement quel était
la qualité de l'air déjà de cette époque.
Voilà, et
entre autres.
Et du coup, il peut démontrer par des preuves scientifiques que l'homme a un impact réel,
sur le réchauffement climatique. Oui, parce qu'il fait des carottes, il prélève effectivement, ils font des études sur, comme tu le précisais, sur les bulles d'air. Ils arrivent à déterminer la quantité d'oxygène contenue dans l'air, entre autres. Ils ont même retrouvé ce monsieur, effectivement, qui est très connu, et le film dont tu parles. Tu peux nous rappeler le titre une deuxième fois, s'il te plaît ?
La glace et le ciel.
Voilà, La glace et le ciel. C'est effectivement, j'ai vu des extraits, c'est un très très beau film.
C'est très émouvant de voir aussi cette personne qui a passé sa vie sans qu'on reconnaisse ses études, parce que lui, il a alerté, il a montré, mais tout le monde
Au début, il passait pour un farfelu, pour quelqu'un qu'on ne prenait pas en considération. Il faut tellement de temps pour arriver à mettre. Parce que derrière les lobbying, on pourra en parler longtemps, on en reparlera tout à l'heure sur d'autres sujets, puisqu'on est, je vous le rappelle, aujourd'hui, sur un sujet qui est vraiment sur l'environnement. On reviendra un petit peu, mais il y a les lobbying et il faut arriver à persévérer et y aller pour faire avancer les choses. Elles avancent doucement, mais elles avancent petit à petit. Merci en tout cas, Benjamin, pour cet exposé sur le climat. Simonetta, si on se refaisait une petite pause musicale, qu'est-ce que tu en penses ?
Oui.
Allez, vas-y, tu nous annonces le morceau à venir.
Avec Cool Million.
Oh, a world for everyone to see. Oh yeah,
oh yeah, oh yeah.
I like your style, you classy, so funny. The one that I would like to spend my life with. But I got to leave tomorrow, but only temporary. So there's one thing you should know. I'll be back for more.
De vous à nous sur RTVFM, l'émission qui donne la parole à ceux que l'on n'a pas l'habitude d'entendre.
Et de vous à nous aujourd'hui avec Josie, Simonetta, Benjamin et Laurent. Voilà cette émission, nous sommes ensemble jusqu'à midi, il est 11h20. On continue à vous donner un petit peu des informations, on parle beaucoup climat aujourd'hui, environnement. Mais là on va vous faire quelques petites annonces qui sont en dehors du climat, parce qu'on aime bien aussi dans cette émission vous faire un petit peu des annonces sur tout ce qui se passe sur notre secteur de Carpentras et plus largement du Vaucluse. Et je crois que c'est toi Simonetta que tu as deux petites annonces à nous faire.
Oui, alors je commence. Le 25 et 26 mai, le meeting de l'air sur la base 115 d'Orange Carita. La Fondation des œuvres sociales de l'air, la FOSA, organise un meeting de l'air sur la base aérienne 115. Le capitaine de Seine, les samedis 25 et dimanche 26 mai. L'occasion de découvrir une centaine d'appareils au sol et en vol. La patrouille de France se livrera à des démonstrations. La Rafale Solo Display, l'Alpha Jet Solo Display, l'équipe de voltige de l'armée de l'air et l'équipe de France de parachutisme militaire seront en place. Les visiteurs découvriront tous les métiers de l'armée de l'air et de l'aéronautique. Des stands ainsi que des espaces historiques ou artistiques en lien avec l'aéronautique. Acheter un billet d'entrée revient à faire un don à la FOSSA, qui vient en aide au personnel de l'armée de l'air, notamment en difficulté à la suite d'un accident de la vie survenu à l'un de leurs. Prix d'entrée, 20 euros pour les adultes, 10 euros pour les enfants de 10 à 17 ans. Gratuit en dessous de 10 ans. En pré-vente sur Internet, 16 euros pour les adultes, 8 euros pour les enfants de 10 à 17 ans. Le spectacle aérien durera de 10h à 18h chaque jour.
Tu nous rappelles les dates, Simonetta, s'il te plaît ?
Le 25 et 26 mai.
Voilà, 25 et 26 mai. Donc, si vous êtes sur le secteur d'Orange, vous avez effectivement cette possibilité d'aller à ce... Je crois que c'est tous les ans qu'ils font ce spectacle.
Oui.
Il y en a
beaucoup qui vont s'envoyer en l'air ce jour-là. Hein.
C'est tous les ans, mais pas sur la même base aérienne.
Pas sur la même base aérienne, ça tourne. Merci, oui. Alors, c'est vrai qu'on parle d'environnement, et là, on regardait Benjamin qui faisait, oui, on parle de... Et là, la pollution, les avions, effectivement, pendant cette journée-là, qui vont tourner. Mais bon, il faut bien connaître...
Les contrastes, voilà.
Ça permet effectivement de mettre en avant aussi notre système de défense, qui est un pays pour qui reste qu'une démocratie puisse continuer et perdurer. Ben, il faut un système de défense, et c'est bien souvent le garant de la paix, je dirais. C'est comme ça, les hommes sont ce qu'ils sont et on a besoin de ces moyens de défense. Merci Simonetta. Josie, une annonce ?
Ben moi, je vais vous parler de parapluies, mais pas les parapluies qu'on utilise.
Pas les parapluies de Cherbourg ?
Non, les parapluies décoratifs que nous avons à Carpentras, qui font un spectacle magnifique. Je vois souvent les touristes, ils s'arrêtent pour prendre des photos. Ils sont sur le passage Boyer, vous voyez la rue vitrée qu'on appelle.
Passage vitré.
Ils sont accrochés là jusqu'au 25 août.
Et c'est Arévi, c'est José Puchalte, l'association qu'on salue, José,
voilà,
si vous écoute,
Arévi,
qui organise entre autres les papillons, qui organise les parapluies et beaucoup, beaucoup d'autres choses.
Et là maintenant, justement, il y a les bulles maintenant,
les
qui
bulles
sont aux portes de Monteux, qui elles sont là jusqu'au 31 août. Voilà.
C'est des parapluies décorés et tout ça.
Oui, c'est les parapluies renversés qui sont sous le passage.
Ah, c'est magnifique.
Avec
oui.
des peintures dessus.
Avec des peintures dessus. Ben, l'association Arévi, on les connaît bien, nous, RTVFM,
ils font beaucoup de choses.
C'est eux qui animent Carpentras, les gros rochers qui sont décorés, style Berlingot.
Oui,
voilà, qui sont.
Il y a les rideaux de Mémé aussi.
Oui, les rideaux de la Mémé.
Ouais.
Il y a les luminaires qui sont un petit peu décorés aussi pour casser ce côté trop métallique.
Ils ont appelé ça les bonbons, je crois.
Les bonbons ? D'accord. On en parlera tout à l'heure justement des bonbons, mais ceux qui sont plus mauvais. Meilleur au goût, mais pas très bon pour la santé. D'autres informations, Josie ?
Je voulais dire le rendez-vous avec la Cove, comme une fois par mois. Ce sera ce vendredi 3 mai sur les allées Jean Jaurès, donc dans le marché. Vous pouvez vous renseigner.
C'est le beau véhicule, la Jula 4 qui a été transformée et qui permet de donner les informations. Vous savez, ce beau véhicule, l'ancienne, qui est dans les... C'est pas une Jula 4, c'est une... Ah, c'est une coccinelle. Pourquoi j'ai Juve à 4 ? Oui, c'est une... Je vois, pourquoi j'étais sur une Juve à 4 ? Parce qu'il y avait des Juve à 4 un petit peu dans mon esprit. Je regardais un site où il y avait des très belles voitures ce week-end et voilà, j'étais dans la Juve à 4. Effectivement, le technicien me fait signe. Non, c'est une coccinelle qui a été transformée. Merci, Willy. On se refait une nouvelle pause. Merci. Josie, t'as pas fini ? T'avais encore quelque chose ?
Oui, la petite dernière.
Vas-y.
Ce soir, puisque nous sommes mardi, donc comme tous les mardis, le marché des producteurs qui se tient au Square Champeville de 16h45 à 19h.
Et produits locaux et de saison.
Voilà.
Merci.
Exclusivement de producteurs.
De producteurs.
Hein.
Merci Josie. Simonetta, le morceau suivant.
Oui, avec Maxime Manon.
Cette émission vous est présentée par les stagiaires de l'UP Ventoux.
Courir après des rêves, je m'en fous un peu. Moi, ce que je veux, c'est être heureux. M'arrêter sur tes lèvres, c'est beaucoup mieux. Moi, ce que je veux, c'est être heureux. C'est toujours mieux ailleurs. Pourquoi moi, je me sens bien en bas de chez moi? Le bonheur des autres et tout ça, ça me laisse froid. Si d'autres mondes vous font envie, moi, je trouve mon bonheur ici. Ma rue, je la trouve jolie. Merci, 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 merci. Courir après des rêves, je m'en fous un peu. Moi, ce que je veux, c'est être. cher, j'aime autant les petits délires, c'est suffisant, bien souvent. Perdez-vous dans les galaxies, après tout c'est chacun sa vie. Ma rue, je la trouve jolie. Merci, merci,
merci, merci,
merci, merci,
merci, merci.
Courir après des rêves, je m'en fous un peu. Moi ce que je veux c'est être heureux. Je trouve mon bonheur ici, ma rue, je la trouve jolie. Merci, merci,
merci, merci,
merci, merci,
merci, merci.
Courir après des rêves, je m'en fous un peu. Moi, ce que je veux, c'est être heureux. M'arrêter sur tes lèvres, c'est beaucoup mieux. Moi, ce que je veux, c'est être heureux. Courir après des rêves, je m'en fous un peu. Moi ce que je veux c'est être heureux. M'arrêter sur tes lèvres, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Moi ce que je veux c'est être heureux.
C'était Maxime Mano. Il veut être heureux, Maxime Mano. Et nous, on est heureux dans cette émission aussi. Hein, je le rappelle, parce qu'on est avec les stagiaires de l'UP Ventoux, Simonetta, Benjamin, Laurent, et je suis bien sûr accompagné de ma fidèle animatrice, Josie. Alors, Laurent, comme on est dans une spéciale, je le répète un petit peu, sur tout ce qui est environnement, tu vas nous parler, toi, d'un sujet, de quelque chose qu'on utilise beaucoup, malheureusement, des fois, je dirais trop, que l'on consomme beaucoup, et on le trouve dans une préparation chocolatée que l'on tartine, et c'est loin d'être un produit qui est vraiment sain et naturel. Tu vas nous parler de l'huile de palme.
Oui, et de ce qui se passe au niveau de la population d'orang-outan. Alors, c'est d'après une nouvelle étude qui représente la couverture de données la plus complète à ce jour. Les populations d'orang-outans de Bornéo, en Indonésie, connaissent un déclin dramatique et sont témoins de la perte irréversible d'espaces forestiers vierges à très forte valeur environnementale. Pourquoi cela? Pour satisfaire l'industrie agroalimentaire et maintenant celle des agrocarburants. Car l'huile de palme ne se trouve pas uniquement dans la pâte à tartiner. Récemment, les réseaux sociaux ont été envahis d'images affligeantes d'orang-outans morts ou errant dans des forêts entièrement défraîchies en Indonésie. Le principal coupable, l'huile de palme, qui a envahi en quelques années une grande partie de nos produits alimentaires et qui est notamment présent dans les fameuses pâtes à tartiner. Malgré la médiatisation et l'engagement de certains producteurs alimentaires, la demande en huile de palme explose. Elle devrait doubler en 2030 et tripler d'ici 2050. Si au niveau mondial, 70% de celle-ci est utilisée pour l'industrie agroalimentaire, la demande pour les agrocarburants a été fortement augmentée, et principalement en Europe, où 46% de l'huile de palme importée est consommée dans les secteurs des transports, c'est 6 fois plus qu'en 2010. En France, 80% de l'huile de palme importée est mélangée, à hauteur de 20% dans le gasoil. En plus de nous polluer à cause des oxydes d'azote et des particules, le gasoil, le carburant des moteurs diesel donc, contribue à la déforestation en Indonésie et donc à la mort des orang-outans. Cette précision est importante car trop souvent, le constat est accablant mais le diagnostic est erroné, ce qui engendre des solutions sans efficacité voire contre-productives. En quelques années, la culture de l'huile de palme a littéralement défiguré un grand pays comme l'Indonésie, principalement l'île de Sumatra, qui est le premier producteur mondial, qui a choisi de sacrifier un quart de ses forêts et la vie qu'elles abritaient pour cultiver toujours plus de palmiers à l'huile et d'EVAs pour le caoutchouc. Résultat, 10 millions d'hectares de palmiers à huile sont maintenant cultivés en Indonésie, ce qui représente quasiment la superficie de l'Islande. L'orang-outan de Bornéo est victime de la perte, la fragmentation, la dégradation de son habitat forestier et du braconnage. En outre, les feux de forêt récurrents sur l'île, notamment dans les forêts tourbeuses, accentuent cette pression insoutenable.
Ça fait froid dans le dos ton article, Laurent. Vas-y, je te laisse continuer, pardon, vas-y.
Trop aidé, oui, effectivement.
Et si au niveau mondial, donc 70%, tu nous disais, tu utilises pour le moment, je crois que tu as fini l'exposé. Oui. Ouais, mais ça fait froid dans le dos de voir toute cette huile de palme, ce que ça peut engendrer. Comme déforestation, comme c'est à fois. Quand on voit cette pâte à tartiner là qu'on peut nommer, hein, c'est le Nutella, il continue à l'huile de palme. Mais pourquoi? Parce que les consommateurs continuent à acheter le Nutella. Moi, je le dis clairement à la radio. Il existe des pâtes à tartiner sans huile de palme. C'est pas la marque Nutella, mais vous pouvez les acheter. Elles sont tout aussi bonnes. Les gens continuent à acheter le Nutella. Ils se précipitent même, on peut le nommer, chez Intermarché. Ils se ruent tous, que même Intermarché s'est retrouvé en procès, ils ont été condamnés, ils ont pris une amende parce qu'ils avaient mis le Nutella en promotion et des milliers de personnes qui se sont piétinées pour acheter des pots de Nutella. Donc des fois c'est peut-être bien de je pose peut-être un petit coup de gueule, Benjamin, mais de dire que le consommateur, t'es d'accord avec moi, c'est quand même lui le premier responsable.
Moi je crois pas, l'huile de palme il y en a partout, et il y en a aussi là ils disent aussi dans les carburants maintenant,
oui.
Donc est-ce qu'on a des fois, on se demande si aussi on a vraiment le choix
sur le Nutella, on a le choix.
Moi je pense que nous on peut
sur notre consommation de tous les jours, si on regarde un peu l'étiquette maintenant, c'est marqué biscuits avec huile de palme, moi j'en prends plus, c'est marqué dessus.
On a une responsabilité, mais je pense qu'il faut aussi taper aussi plus haut, ça devrait être interdit de faire des choses comme ça, de détruire des pays entiers.
Ah oui, complètement. Mais si le consommateur n'en consomme plus, déjà ça viendra là aussi, parce qu'on a trop tendance à dire souvent les industriels, eux effectivement ils produisent et des fois ils mettent en avant malheureusement des poisons parce que ça leur coûte moins cher pour des raisons x, y. Mais si le consommateur maintenant, qui est quand même averti, quand tu as marqué huile de palme sur des paquets de biscuits, quand tu as marqué huile de palme sur du Nutella, si tu ne le prends plus, ça fera baisser, les 70% vont baisser, ils vont bien être obligés de mettre autre chose comme huile. Alors effectivement, tu peux le dire, le colza, on va mettre du colza après, on va peut-être déforester aussi pour planter du colza. C'est vrai qu'on est dans un cercle un peu compliqué. C'est compliqué.
Ouais.
Alors, qu'en pensez d'autres, Benjamin, Laurent, Simonetta? Est-ce que tu regardes les étiquettes quand tu achètes les produits?
Des fois oui, des fois non.
Des fois c'est compliqué aussi d'arriver déjà à décrypter. Parce que la huile de palme, à la limite, c'est marqué huile de palme. Mais tout à l'heure, on va parler d'autres choses, de colorants. Savoir ce que c'est, des E171 ou des E je ne sais trop quoi, c'est bien compliqué pour le consommateur.
Et oui,
c'est quand même assez compliqué. Mais 70%, c'est au niveau de l'industrie agroalimentaire. Et maintenant, effectivement, Benjamin, tu le dis, c'est dans les gasoils aussi, puisqu'on roule au gasoil et on met aussi de l'huile de palme. Mais ça fait peur de voir qu'en Indonésie, ils ont sacrifié leur pays. Oui, Josie.
Oui, moi je pense aux orang-outans là qui sont en train de périr, les pauvres. Et beaucoup de gens critiquent les zoos et tout ça, mais je me dis que ceux qui sont dans les zoos, au moins ils ont leur chance de survie.
Oui, mais c'est pas la solution extrême quand même. Hein. Non, il vaudrait mieux qu'ils soient dans leur habitat naturel.
Oui, non, mais leur habitat naturel, quand tu vois ce que ça devient.
Parce que si malheureusement sur nos petits-enfants, on est en capacité de leur montrer que des animaux dans des zoos, parce qu'ailleurs ils auront totalement disparu, c'est quand même un peu triste.
Mais au moins on pourra leur en montrer encore.
Oui, mais bon, le but c'est peut-être d'éviter les zoos et peut-être de laisser les animaux dans leur habitat naturel. Puisque...
Tout à fait, je suis bien d'accord. Hein. Ils seraient bien mieux, sauf s'ils sont. S'ils sont protégés, parce que là c'est pas le cas, quoi. Malheureusement.
Mais je vois, moi je le répète, après mon point de vue, c'est faut consommer mieux, c'est sûr, mais je pense qu'il faut surtout consommer moins
aussi. Voilà. Exact,
vraiment quelque chose, je pense que
De toute façon, la décroissance. Donc, toi, tu es un petit peu favorable pour la décroissance,
bien sûr. Oui,
tu penses qu'on achète, on a beaucoup trop de produits et qui ne nous servent à rien tout autour de nous,
bien entendu. Ouais.
Alors, il y a un sketch de Roland McDan, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter, si tu vois qui c'est, Roland McDan, où il parlait de notre merdier. Il avait appelé ça dans le sketch notre merdier. Et justement, tout ce sketch qui dure 3-4 minutes, c'est. On se rend compte de tout ce qu'on transporte, de tout ce que l'on a. Alors, il y a le sac des femmes, bien sûr, sans me dire que c'est toutes les femmes qui transportent que du merdier, parce que les hommes ne sont pas mieux. Mais c'est tout ce sketch est basé sur le fait qu'on a 3 tonnes de choses qui ne nous servent à rien tout autour de nous. Et qu'on prend, quand on part, déjà, on en met plein dans un sac, on a toujours peur d'en manquer. Et comme tu as raison, effectivement, la décroissance pourrait être quelque chose. Alors. Il y a les fervents de la décroissance, mais d'autres vont te dire « Oui, mais si on consomme moins, automatiquement, on va moins produire. Si on produit moins, il y aura encore plus de chômage. » On pourrait faire un grand débat là-dessus.
Là, l'enjeu, ce n'est pas le chômage, c'est la survie de la planète. Donc,
oui,
on s'en fout du chômage. Quoi.
Oui. Tu as raison.
Tant qu'on n'y est pas.
Tu as raison aussi. Tu as raison de le souligner, Benjamin. Effectivement, c'est l'enjeu, c'est de sauvegarder la planète.
Avant tout, je pense, c'est plus important. Ouais.
Alors, ce sujet sur l'huile de palme, Laurent, alimentaire, huile de palme, tu pensais qu'il y avait l'huile de palme,
hein.
70% qu'il y en a autant dans les... Parce que c'est quelque chose qui coûte peu cher en fin de compte, l'huile de palme. C'est pour ça que les industriels la mettent de partout, tout simplement. Hein. Ils mettent pas l'huile d'olive parce qu'elle est plus dure à produire. Et tout simplement, l'huile de palme, c'est devenu quelque chose de bon marché qu'on va effectivement fabriquer dans des pays sous-développés, entre guillemets, qu'on pollue. Quoi. C'est triste. En tout cas, merci Laurent pour cette excellente présentation sur l'huile de palme et la disparition des orang-outans. On se fait une nouvelle pause musicale et on se retrouve juste après Simonetta.
Avec Corneille.
RTL-VLTL-FM. says part of me knows what you're thinking.
Cette émission vous est présentée par les stagiaires de l'UP Ventoux.
Et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Et maintenant, c'est Josie qui va nous parler du parc, du futur parc régional du Mont Ventoux, puisqu'on en parle pas mal en ce moment. C'est vrai qu'il y a un beau projet. C'est quelque chose qui... Le syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux travaille là-dessus en partenariat avec la région, le département, tout le monde justement pour faire avancer ce projet. Et tu vas nous présenter, tu vas nous parler, tu vas nous expliquer déjà ce que c'est un parc régional.
Voilà, il faut commencer par le début. Alors, c'est dans les années 1960, après la Deuxième Guerre mondiale dans la France de la reconstruction et de l'exode rural, que commence l'aventure des parcs naturels régionaux. Alors que l'on bâtit à tout va, l'État, soucieux d'un développement harmonieux du territoire, s'inquiète. Il faut protéger la richesse et la diversité du pays. Aujourd'hui, il existe 53 parcs naturels régionaux. Bientôt 54, effectivement. Alors, le premier article du décret qui a été signé par le général de Gaulle est précis. Un territoire peut être classé en parc naturel régional lorsqu'il présente un intérêt particulier par la qualité de son patrimoine naturel et culturel, pour la détente et le repos des hommes et le tourisme, et qu'il importe de le protéger. C'est avant tout un territoire, un espace naturel, une zone vraiment différente des autres que veut protéger et développer un parc naturel régional. Pour accéder à ce statut de parc naturel régional, il faut donc être exceptionnel. Et qui doute encore que notre Ventoux soit exceptionnel ? Avec ses 1910 mètres d'altitude, son pierrier, sa forêt florissante sillonnée par le GR4 et le GR9, sa faune et sa flore étonnantes, ces trois voies d'accès sur lesquelles tant d'amoureux de la petite reine se mesurent à eux-mêmes, le Ventoux est un pic, un cap, une péninsule. Bref, la fierté, l'attachement et l'identité de ceux et celles qui y sont nés ou y sont installés. Alors, et en pratique, création d'un conseil de massif avec 9 communes du Ventoux, Aurel, Bédouin, Beaumont du Ventoux, Brante, Flassan, Malocène, Saint-Léger du Ventoux, Sceaux et Savoyant. Mise en place d'un programme d'action éducative pour tous, enfants comme adultes, pour faire découvrir le territoire et ses richesses environnementales ou culturelles. Constitution d'un groupe d'ambassadeurs du parc, chargé de faire connaître et d'expliquer le parc, son projet et ses actions. Élaboration d'outils d'information des publics, résidents comme visiteurs, sur le Ventoux, ses richesses et les précautions à prendre pour les préserver. Puis création d'un conseil scientifique rassemblant des experts de différentes disciplines et mise en place d'un programme de travail et d'études. Vous voyez, ça, il y a beaucoup de monde qui a travaillé sur ce projet.
Qui travaille sur ce projet, oui, tout à fait. Alors, c'est un projet, ben, voilà, ça avance petit à petit sur le parc naturel régional du Mont Ventoux. Et je ne sais pas si ce n'est pas 2021 la décision finale pour que le parc soit créé. Je crois que il me semble que c'est 2020 ou 2021, je ne sais plus exactement, mais voilà, pour classer notre beau Ventoux en parc naturel. Un parc naturel régional. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus justement sur le parc régional, parc naturel, le futur parc naturel régional du Mont Ventoux, il y a une émission sur RTFM qui s'appelle Les pieds dans le parc. Une émission qui a été réalisée il y a un peu plus d'un mois. Vous allez sur les podcasts et vous retrouverez des élus, la région, le syndicat mixte qui sont venus partager et parler justement de ce beau projet de parc naturel régional du Mont Ventoux. Et il y aura d'autres émissions qui vont suivre puisque les pieds dans le parc, c'est à peu près une émission tous les deux mois. Donc la prochaine sera dans le courant du mois de mai, vous pourrez continuer à vous informer un petit peu plus sur le parc. Josie, tu voulais rajouter quelque chose, non ?
Oui, je vois. Donc, le parc naturel régional du Mont Ventoux, c'est 39 communes, 90 100 habitants, 96 600 hectares, dont 58% d'espace naturel, 33% d'espace agricole, 9% d'espace urbain.
Merci Josie pour toutes ces précisions. Avant la pause musicale, sans transition aucune, simplement pour détendre un petit peu l'atmosphère, je vais vous poser une petite question sur, on va parler sport, puisque hier nous avions l'émission RTV Sport et j'ai pas eu l'occasion de parler de sport insolite. J'avais fait quelques petites recherches sur les sports insolites et je vais vous poser une question ou deux, à savoir si vous connaissez ce style de sport. Est-ce que vous connaissez par exemple le cheese rolling?
Pas du tout.
Non.
Benjamin.
Non.
Alors, cheese rolling, ça veut dire tout simplement, c'est un sport dans lequel vous devez attraper un fromage rond de 3,5 kg qui dévale une colline à toute vitesse. Une centaine de participants s'élancent eux aussi du haut de la colline pour tenter d'attraper le fromage. Celui qui y parvient remporte la compétition. Donc, vous voyez le style de
il
sport.
Il a le droit de manger le fromage.
Voilà. Ensuite, il y en a un autre, c'est le chess boxing.
Alors, il y a le mot boxe, mais
chess, ouais.
C'est des échecs.
Eh oui, bien, c'est un savant mélange entre la boxe et les échecs. Un match se déroule en 11 rounds, entre parties d'échecs et matchs de boxe. Les rounds pairs, les participants s'affrontent sur leur ring, et les rounds impairs, ils se retrouvent autour d'un échiquier en bas du ring. La partie prend fin quand l'un des joueurs est échec et mat, ou lorsqu'il est KO. Voilà, c'est un petit peu, je connaissais pas non plus ce sport. Après, il y a le saut de chameau. Bon, ça, tout est dit dans le titre, hein. Est-il bien nécessaire de vous expliquer le but du jeu? Le participant essaye de sauter par-dessus plusieurs chameaux. Vous imaginez bien que pour pratiquer ce sport, il ne faut pas avoir la carrure d'un pilier de rugby. Il faut quand même être assez léger pour faire le... Et le tout dernier, c'est l'Ultimate Taser Ball.
Oui, si tu le dis.
Alors celui-ci, c'est le nom, on laisse rêveur. Vous en conviendrez, mais pas sûr que vous soyez tenté de faire une partie quand on vous aura expliqué les règles. Pour commencer, un match oppose deux équipes. Elle se compose de 4 joueurs, dont un gardien. Chaque joueur est armé d'un taser. Et les équipes se disputent un ballon de 60 cm de diamètre. Le but est alors de marquer plus de buts que son adversaire sur un terrain de 25 mètres. L'usage des tasers est réglementé. Ouf, ça nous rassure. Et vous ne pourrez en faire l'usage uniquement dans certains cas. Zone du terrain appelée choc zone. Mon Dieu, drôle de sport. Wow. Courir avec essayer de rattraper quelqu'un avec un taser. Voilà, on n'arrête pas le.
Et ça se pratique où tous ces sports?
Oh, c'est dans différents pays que je n'ai pas relevé. Il y en a un tout dernier, c'est le slam ball. C'est un mixte qui combine le trampoline et le basket. Un match se déroule sur un terrain de basket banal, et à la différence que 4 trampolines sont positionnées devant chaque panier, les équipes sont composées de 4 joueurs et l'équipe marque 3 points lorsqu'elle utilise le trampoline pour marquer un dunk.
Il y en a aussi qui font des figures comme ça, là, j'ai vu.
Oui, il y en a qui les font des figures, ouais. Les trampolines. Ouais, c'était, voilà, c'était
marque,
pour...
qui marque ensuite avec,
qui marque ensuite, ouais,
avec
ouais.
Le ballon. Ouais.
Donc on n'arrête pas le progrès. Il y a plein de... L'être humain a toujours plein d'idées pour des sports insolites et pour d'autres choses. On se refait une dernière pause musicale et on reviendra pour le dernier sujet où on va parler agriculture bio avec Laurent Simonetta.
Alors, avec... On démarre.
Non, on démarre. Excusez-moi. Pas, si tu veux. Non, mais on écoute.
Avec Lisandro Cucci.
Merci.
FM, vous ne pourrez plus jamais écouter la radio comme avant.
Je te connais à travers le regard de mes aînés. Je connais ton histoire, mais j'ai jamais marché sur ta plage. J'ai grandi sous le soleil de Zambouja et du midi, mais j'avais les yeux vers un autre pays, petit pays et d'autres paysages. Oh, je te promets que je viendrai te rencontrer. Mon île adorée, je sais déjà qu'on va s'aimer. Et je te ferai danser. Se dessine. Quand je pense à toi, j'ai des ailes et des racines. C'est clean, je signe. Je serai bientôt là. Oh, je te promets que je viendrai te rencontrer. Mon île adorée, je sais déjà qu'on va s'aimer. Je devrais rentrer, mais c'est sûr que je te quitterai. Mais c'est juré, je t'assure que toi et moi c'est gravé. Oui, c'est sûr que je reviendrai. Je te ferai danser.
Écoutez De Vous à Nous sur RTVFM, l'émission qui donne la parole à ceux que l'on n'a pas l'habitude d'entendre.
Et ceux que l'on n'a pas l'habitude d'entendre aujourd'hui, c'est Simonetta, Benjamin, Laurent, et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Alors on va parler, je l'ai annoncé juste avant la pause musicale, de fruits, de fraises. On est bien sûr de la fraise, entre autres, puisqu'on est un gros producteur carpentras de fraises. Mais vous parlez un petit peu de la fraise, non pas qui est produite chez nous, mais à certains endroits, ils ont tendance à faire des fruits et légumes hors saison. Ils mettent l'estampille bio et sous des serres chauffées. Donc un petit peu les méfaits un petit peu de cette agriculture qui se dit bio, mais qui a d'autres conséquences si on chauffe les serres. Et je crois que ça sera à deux voix, puisque c'est toi, Benjamin, qui commence, et en alternance avec Laurent. On t'écoute, Benjamin.
Oui, alors je crois qu'on va plutôt utiliser l'exemple des tomates que des fraises.
Mais... Vas-y, oui, il n'y a pas de souci.
C'est bon. Alors que l'agriculture biologique poursuit son développement en France, certains agriculteurs moins sensibles à l'éthique du bio proposent des produits bio français chauffés sous serre. Une pratique dénoncée par la filière bio qui tente d'obtenir enfin son interdiction. En 2017, 14% des exploitations agricoles en France étaient engagées dans l'agriculture biologique et exploitaient près de 6,5% de la surface agricole utile, en augmentation de 40% et 50% respectivement par rapport à 2013. Un dynamisme poussé par la demande en hausse et la multiplication des enseignes de distribution. Si l'agriculture biologique n'est pas parfaite, comme en témoigne l'utilisation de certains pesticides, elle répond sans aucun doute à l'urgence écologique et sanitaire tout en offrant des revenus plus décents pour les agriculteurs. Et pourtant, la tentation est grande pour certains maraîchers en conversion d'utiliser leur vieille méthode pour produire des fruits et légumes toute l'année, et notamment les serres chauffées. Un non-sens pour une agriculture qui défend la saisonnalité et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Ainsi, le 3 avril 2019, le Comité national d'agriculture biologique devait se prononcer sur l'interdiction du chauffage des serres pour la production de fruits et légumes bio hors saison. Mais pour la deuxième fois consécutive, sous la pression du monde agricole conventionnel, le vote a été reporté à juillet 2019 pour cette fois.
Or, le cahier des charges bio impose le respect des cycles naturels et une utilisation responsable de l'énergie. Et pour cause, une tomate produite en France sous serre chauffée émet 4 fois plus de gaz à effet de serre qu'une tomate importée d'Espagne et 8 fois plus qu'une tomate produite en France en pleine saison. Certains acteurs économiques croient pouvoir profiter de la forte demande en fruits et légumes bio sans changer leur modèle. Pourtant, le chauffage des serres implique une spécialisation des cultures qui approvisionne les sols, dès lors incompatible avec la démarche agronomique défendue par le modèle biologique. On ne peut pas calquer un modèle productiviste conventionnel sur une logique biologique qui suppose d'accepter une baisse des rendements et des contraintes de production plus fortes dont la saisonnalité fait partie. Si les nouveaux acteurs se positionnent au mépris de cette logique, ils détruiront ce qui a été mis en place il y a plus de 40 ans par les agriculteurs convertis en bio. Plus la décision d'interdiction est reportée, plus de nouveaux projets sortent de terre et plus cela sera difficile de revenir en arrière.
Et voilà, quand quelque chose prend un petit peu de l'ampleur, et tant mieux pour l'agriculture bio, automatiquement il y en a d'autres qui s'engouffrent et qui essayent de remettre leur rendement en avant et de faire des produits hors saisonnalité. On peut encore reparler du consommateur, Benjamin, je vais relancer encore là-dessus. Si le consommateur arrête d'acheter des aubergines en plein hiver, peut-être que celui qui s'est lancé dans le bio, non pas avec l'esprit vraiment bio, parce que ça fait quand même 40 ans, hein, je crois, que le bio a été lancé en France. Donc on est un peu presque les pionniers, les Français, sur l'agriculture bio. Beaucoup d'agriculteurs bio, et je dirais la très grande majorité, sont vraiment dans cette optique du respect de l'environnement. Certains, malheureusement, ont vu une petite ouverture financière leur permettant de gagner un petit peu plus et pour en arriver à produire des légumes chauffés sous serre. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de cet article, toi, Benjamin?
Bah, c'est l'économie qui a pris le pas sur le respect de l'agriculture.
Ouais.
Bah, ouais, on est dans cette logique du monde qu'on voit partout, quoi. Oui,
et encore, même si j'alourdis encore mon propos, bah, le consommateur est encore, c'est encore lui à éviter d'acheter peut-être de l'aubergine, de la fraise hors saison, et d'attendre la pleine saison comme actuellement, et que ça ne soit plus sous serre, que ce soit des légumes de plein champ, voilà, et de ne pas consommer, d'éviter de consommer encore ces légumes et ces fraises qui seraient produites sous serre à chauffer. Josie, le bio, est-ce que toi ça t'arrive un petit peu ou non, parce qu'au niveau financier c'est quelque chose qui a encore quand même un tarif assez élevé au niveau du bio?
C'est vrai, bon, j'essaye dans la mesure raisonnable, quand je peux voir du bio à un prix encore dans mes moyens, on va dire,
oui.
Effectivement, bon, je vais prendre ça. Mais je lis toujours bien aussi, hein, partout, sur les paquets.
D'où provient le bio?
Voilà, je lis ce qu'il y a dedans, d'où ça vient, jusqu'à quand c'est bon, où ça va être périmé. Enfin, c'est vrai qu'on y passe un moment maintenant, déchiffrer tout ça.
Oui, hein. Oui, c'est là que c'est compliqué. Ils avaient voulu mettre un petit peu, on pourra en parler dans une prochaine émission, les lettres un petit peu comme quand on achète un véhicule, savoir s'il consomme peu et décider dans la catégorie trop de matière grasse ou pas. Il y a peu, et comme ils n'ont pas rendu encore une fois les choses obligatoires, peu d'industriels s'y sont soumis.
Préfère acheter quand même, je fais de mon mieux pour acheter local, même si c'est un peu plus cher, mais pour faire vivre quand même nos producteurs locaux.
Merci Julie, c'est une bonne chose. Peut-être une petite annonce que tu avais à nous faire, non, sur le muguet peut-être, parce que c'est le 1er mai demain.
Parce que demain nous sommes le 1er
mai. Voilà, et beaucoup on ne sait pas pourquoi le muguet.
Voilà, alors c'est la fête du muguet en fait. Cette tradition remonte à la Rome antique, donc c'est pas d'aujourd'hui. C'était pour fin avril, début mai, zone sombre et zone claire. Les Celtes avaient également une fête comparable. Mais la tradition, c'était un peu, bon, c'était juste une fête et tout comme ça, qu'on célébrait le muguet. Mais c'est Charles IX qui, le 1er mai 1560, en visite dans le Dauphiné, se vit offrir un brin de muguet. Il a trouvé ça tellement bien qu'il a décidé chaque année d'en offrir aux dames de la cour. Bon, il est dit que c'est difficilement vérifiable, mais que effectivement, ça serait de là que vient notre méthode là maintenant d'offrir du muguet au 1er mai, qui est censé porter bonheur. Voilà. Qu'en penses-tu, Alain ?
Ben oui, bon, après moi le muguet, je suis pas, moi je crois que j'ai jamais offert de brin de muguet de ma vie. Hein. C'est pas quelque
et
chose.
Moi, même si j'aspecte c'est pas pour autant que j'ai eu plus de bonheur dans l'année.
Ouais, je respecte les traditions. Je crois pas. Voilà, je suis pas superstitieux. Je suis pas non plus.
Pour moi, c'est pas une superstition.
Mais bon, après ça peut être un gage. Oui, Laurent, Benjamin.
Et toute cette production de muguet, quel impact sur l'environnement ?
Toujours pareil. Voilà, engrais, arrosage. Après, c'est vrai que ça fait. On pourrait revenir sur beaucoup de choses. Ça fait vivre du monde aussi. Ça fait tourner l'économie. Je pense qu'on pourrait en parler des heures et des heures, parce qu'il y a vraiment, je pense qu'on aura d'autres émissions, on pourra en faire d'autres sur l'environnement, que ça, on a l'air un petit peu, je pense, ça nous passionne, on arrive à avoir des débats un petit peu les uns et les autres. Comme il nous reste très très peu de temps, on passe sur quelque chose, on va parler des transports, c'est aussi de l'économie d'énergie, et le transport c'est pour éviter la pollution, et il y a du Théâtre Forum, c'est Simonetta qui va nous l'annoncer.
Oui, alors c'est pour le vendredi 3 mai à 19h45 à l'espace Ozon. L'entrée est libre. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le bus sans jamais oser le demander. Alors il y aura un atelier théâtre de Ville-Marie avec la compagnie des autres.
Voilà, donc tu pourrais en parler peut-être un petit peu, Josy, c'est du forum interactif.
Oui, parce que je suis comédienne, je vais jouer vendredi soir.
Alors dis-nous un petit peu.
Donc voilà, la COV nous a posé la question, enfin nous a surtout demandé de poser la question, pourquoi les gens ne prennent pas le bus. Donc par plusieurs scénettes, nous allons effectivement soulever ce sujet et faire comprendre ce qu'il faudrait faire, peut-être il y a des changements à faire de part et d'autre. Hein.
Donc c'est pour faire remonter l'information justement au travers de Transcov.
Pour voir ce qui ne va pas, pour comment on peut améliorer ça, et il faut qu'à la
ça
fin,
remonte autour de Transcov, qui est la société en parallèle avec la COV qui s'occupe des transports, pour voir s'il y a une amélioration à faire ou pas sur le... voilà. Merci pour cette annonce. Moi j'ai une petite annonce à vous faire, c'est l'Éclectique Festival à l'espace Ozon de Carpentras. C'est le 16 mai de 9h à minuit, c'est organisé par les jeunes du BTS DATR du lycée Louis Giraud, juste à côté de chez nous, et l'association Le Sonographe. Donc il y aura des ateliers, du cinéma débat, il y a des concerts avec le groupe Canapes Acoustiques. Voilà, il y a des éco-buvettes également. Voyons, on parlait de l'environnement, mais c'est des éco-buvettes. Je pense que c'est les gobelets qui sont de plus en plus, ça se fait, c'est les gobelets qui sont on donne qui sont consignés, merci Benjamin, et ça évite de faire traîner des gobelets plastiques de tous les côtés, jeter. Ouais, c'est à Carpentras, c'est l'Éclectique Festival. Il y a l'annonce qui passe en ce moment sur nos ondes, réalisée par les jeunes du BTSR du Louis Giraud, le 16 mai de 9h à minuit. Voilà pour cette petite annonce. Il nous reste encore une toute petite minute. D'autres annonces, Simonetta, tu en avais d'autres ou pas? Je ne sais plus. Vas-y, je t'en prie.
Alors moi, je vais parler encore du Ventoux, mais ce coup-ci, c'est le Ventoux en deux roues, qui se déroulera le 15 au 17 juin. 78 ou 135 km, ce sont les distances proposées aux 2500 participants de la Grand Fondo Santini GF. Épreuve de choix pour les amoureux du Mont Ventoux qui sont invités à rejoindre le sommet en avalant au passage des dénivelés de 2390 voire 3300 mètres. Des animateurs et un salon d'exposition vente à Vaison-la-Romaine ponctuent ce week-end un cyclo-sportif au lendemain duquel le 17 juin est lancée une nouvelle compétition cycliste professionnelle internationale inscrite au calendrier Europe Tour Classe 1, dont le peloton doit parcourir 173 km à travers le Vaucluse.
Merci Simonetta, et on arrive à la fin de cette émission. Merci Benjamin, merci Laurent, merci Simonetta, merci Josy de m'avoir assisté dans cette émission, une émission je pense intéressante. On espère que nos auditeurs ont pris plaisir à nous entendre parler un petit peu d'environnement, de climat, de tout ce qui nous touche, je dirais, de près dans notre société. Cette émission est réécoutable en podcast comme l'ensemble de toutes les émissions d'RTVFM. Vous allez sur notre site, vous cliquez sur podcast et vous aurez l'ensemble de tout ce qui est, de toutes les émissions, voilà, de la radio. Restez fidèles à la programmation, restez fidèles à RTVFM, il vous suffit là aussi d'aller sur le site et vous aurez l'ensemble des horaires et des émissions de notre radio. On vous souhaite une excellente journée. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine émission de Vous à nous. Merci à tous les quatre. À très bientôt. Merci à notre technicien Willy.
Voilà, merci. Bonne journée à tout le monde.
Merci, bye bye. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
RTVFM.
une radio, une identité, un territoire.